Pour cette seconde partie de ce premier radio-barque de la saison, monsieur le sous-préfet Rémy Récio, on va passer à... Alors, vous avez expliqué dans la théorie ce qu'est un sous-préfet, quel est son rôle. On va essayer maintenant de prendre un ou deux exemples concrets pour bien illustrer comment les choses se passent. Je vous laisse le choix, peut-être.
Très bien, mais écoutez, merci. Non, en fait, dans un suspense un peu hitchcockien, je vous avais laissé sur la moitié de la première jambe du sous-préfet, qui était la sécurisation.
Oui, bien sûr.
Je vous avais dit que c'était le temps de paix, mais je reviens sur ce temps de paix, peut-être pour prendre quelques exemples concrets qui matérialiseront ce qu'on peut faire. Je vous parlais de la prévention et de la répression en matière de sécurité routière avec trois fléaux bien identifiés que sont l'alcool, bien sûr, la vitesse et les stupéfiants. Bon. Sur la répression, il y a l'idée, par exemple, que l'année dernière, j'ai signé, pour l'arrondissement de Narbonne seul, 650 suspensions de permis de conduire. Ça vous donne la mesure de l'activité, bien sûr que ça génère pour nous, mais de la problématique sociale qui est posée par ça. 650 dans une année pour un seul des trois arrondissements du département.
Ça fait deux par jour, pratiquement.
Quasiment, voilà. Alors ça, c'est l'aspect répressif, mais sur l'aspect, par exemple, préventif, pour donner un exemple concret, il y a quelques jours, j'ai animé à la sous-préfecture une réunion très intéressante sur l'aptitude à conduire, c'est-à-dire les procédures qui nous permettent, avant qu'un accident ait lieu, parce que suspendre un permis, c'est considérer qu'on vient une fois que la... Voilà,
c'est un échec.
En tout cas, si c'est pas un échec, c'est la constatation de quelque chose qui est déjà grave et commis. Mais donc, si on essaie de s'intéresser à l'aptitude à conduire, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas, alors pour des raisons d'âge, de vieillissement ou de maladie, temporaire ou totale, un problème d'aptitude à conduire, nous menons une réflexion dans le département sous l'autorité du préfet et elle m'est confiée pour le département à Narbonne avec la délégation interministérielle à la sécurité routière, un travail avec le corps médical comme ça d'identification, d'amélioration. Ça vous donne un exemple concret. Je prends un autre exemple qui va parler aux Narbonnais. Sous mon autorité qu'ont eu lieu de nombreuses réunions sur la problématique de la sécurisation du secteur du pêche de l'Agnel, où il y a eu un accident mortel avec une jeune fille qui était décédée et là aussi c'est un échec. Et donc concrètement, c'est les nouveaux aménagements qui sont maintenant aux pêches de l'Agnel. Ils résultent d'un travail partenarial avec les forces de l'ordre, les collectivités, le département et Narbonne pour ce qui concerne cet endroit-là. Mais ça donne une mesure de ce qui est fait. Je reviens sur toujours mon temps de paix, sur bien sûr l'animation des grands événements culturels de l'année, la préparation en termes de sécurisation. C'est Barque en Seine, j'en ai parlé, mais c'est aussi le feu d'artifice de Gruissens, ce sont les festéjades à Fleury ou à Gruissens, c'est le mondial du vent, c'est Soli Fiesta à Le 4, enfin voilà, toute l'année.
Oui, dès l'instant où il y a beaucoup de monde rassemblé quelque part.
Il faut s'assurer de la sécurité de ce qui va se passer et surtout rendre possible finalement ce pourquoi ces manifestations sont faites, c'est-à-dire rassembler des gens dans la sécurité mais dans le partage. Barque en Seine, si vous vous souvenez de l'édition de cet été, c'est 100 000 personnes en 3 soirs. Pas une seule problématique en termes d'ordre public, et des gens, et surtout des sourires d'enfants. Donc c'est à ça qu'on tend. Il faut que tout soit très très travaillé pour que tout ait l'air normal.
Là la bonne mesure. Quand
c'est
ça, passe,
exactement.
Quand
ça, alors ça, c'est le temps de paix, mais il y a le temps de crise, hélas.
Mais si vous permettez, Rémy Récio, donc pour ce qui est de... Alors l'état d'une personne, sa capacité ou non de conduire... Comment ça se passe? Parce que c'est pas évident de...
Bien évidemment. Alors,
comment ça fonctionne?
Tout ça passe d'abord par une remontée d'informations, un signalement, de situations qui posent problème. Et ensuite, l'aptitude à conduire, ça relève d'abord d'une appréciation médicale. C'est une aptitude. Donc il y a à la fois une dimension cognitive et puis une dimension physique. C'est est-ce qu'on est capable d'avoir encore de la coordination de mouvement et de pouvoir maîtriser un véhicule qui est dangereux pour soi mais qui est dangereux pour les autres.
Mais au démarrage, il y a un signalement.
Il y a un signalement, surtout ce qui est important que vous reteniez, c'est que c'est une commission médicale et des médecins qui prennent position sur l'aptitude. Exactement. Et qui ensuite font une préconisation à l'autorité préfectorale sur la limitation du droit à conduire. Pourquoi c'est important? Important que ce soit des médecins, parce que là aussi, c'est une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir. On ne peut y porter atteinte, et donc faire exception à cette liberté, que dans des conditions très 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 sérieuses et cadrées par la loi. C'est ce que nous faisons donc à travers ces commissions médicales. Le travail que nous menons, c'est comment faire pour mieux faire remonter les situations à problème et surtout comment faire pour mieux accompagner ensuite la mesure de restriction. Parce que supprimer la capacité à conduire de quelqu'un qui réside, une personne âgée par exemple, qui réside dans le centre-ville de Narbonne, je dirais c'est une atteinte, mais sa vie ne va pas être...
Voilà.
Quand vous habitez dans les Hautes-Corbières ou dans la profondeur de la ruralité... C'est une difficulté à vivre au quotidien. Il faut qu'on l'accompagne.
Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, évidemment, dans ces cas-là. Monsieur Ressio, donc monsieur le sous-préfet, parmi les choses, alors je dirais amusantes ou un petit peu drôlatiques, il y a cette histoire de divagation de chèvres qui a occupé pas mal la presse ces derniers temps et qui est remontée jusqu'à vous, alors, forcément.
Je veux bien vous parler de cette histoire de chèvres parce que elle participe de ce justement, je n'oublie pas moi mon fil conducteur. Hein, je vous ai dit qu'il y avait le temps de paix et la crise.
Oui, ça...
Alors, on peut considérer que c'est un peu l'acmé et la poussée de fièvre autour de cette divagation d'animaux qui normalement devrait faire l'objet d'une administration normale par la gardienne du cheptel. Mais c'est du temps de crise. Mais le temps de crise, je veux bien vous parler des chèvres, mais réduire l'activité du sous-préfet de la sous-préfecture à cette histoire-là, c'est faire peu de cas de ce qui se passe en temps de crise. Mmh. Le temps de crise, c'est ce que les Narbonnais ont vécu avec l'incendie que nous avons eu sur les Hauts-de-Narbonne ou dans la Clape en 2021 avec ce qu'il en est résulté, c'est par exemple la fermeture des massifs sur laquelle je pourrais revenir si vous le souhaitez, mais c'est aussi les inondations, mais c'est aussi le manque d'eau et je suis d'accord. Mmh. Au milieu, de temps en temps, il y a des dossiers qui sortent un peu comme ça. C'est le cas avec la divagation des chèvres que nous avons connu parce que je dis nous avons connu parce que ça fait 2 ans que ce dossier est maintenant ouvert.
Ça dure et ça.
Le principe, j'y reviens toujours, c'est la liberté. Mmh. Nous avons tous en France la liberté de créer une entreprise, d'avoir une activité, dès lors, bien sûr. Qu'elle ne porte pas préjudice ou qu'elle ne provoque pas des risques inconsidérés. Et là, la liberté s'arrête ou commence, finalement, la responsabilité juridique. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Cette dame, donc, qui est à Portel des Corbières, qui a un troupeau de chèvres, moi, si elle souhaite l'administrer de manière pérenne et paisible,
c'est
ça ne me pose...
C'est pas votre problème.
Un sous-préfet ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, je vais m'investir dans une ingérence systématique dans la manière dont on élève les troupeaux caprins. »
C'est pour ça que c'est inhabituel de voir...
Mais pourquoi je vous dis que ça fait 2 ans ? Parce que quand on a commencé à constater des divagations qui étaient manifestées, surtout par une atteinte, un préjudice matériel qui était... le fait qu'elle portait atteinte à la culture de la viticulture.
Oui, les dégâts dans les vignes.
Exactement, qui étaient constatés. Donc ça, c'était déjà grave en soi, parce que le secteur viticole, il a besoin de tout, sauf d'ennuis supplémentaires.
Bien entendu.
Bon. Donc nous avons, sur cette base-là, commencé à lancer une procédure administrative avec l'intervention de l'école vétérinaire de Toulouse, l'intervention de la DDTM, l'intervention de la direction des protections de la population, des services vétérinaires, de la gendarmerie. Donc vous voyez, à partir de l'action ou de l'inaction d'une personne, derrière, en termes de coûts et d'investissement humain, ce que ça génère. Donc nous étions arrivés avec l'intervention de la Fondation Brigitte Bardot, donc vous voyez, public-privé, avec beaucoup d'argent qui avait été mis dans l'édification d'une clôture, à une solution que nous jugions, nous, pérenne et correspondante au préjudice qui était causé. Nous étions arrivés à une solution. Elle n'a pas été respectée. Forcé de constater qu'il y a eu des préjudices qui se sont traduits par des poursuites en justice. Ça ne m'appartient pas, c'est au procureur de la République de vous en parler. Mais il y a eu des condamnations, elle en a relevé appel. Cette année, même situation aggravée par le fait que, et je vais en venir au fameux arrêté dont vous me parlez, qu'on constatait la présence de ces animaux divagants sur des routes à circulation importante, dans une période de vendange où on sait que cette circulation elle est encore plus accrue. Raison pour laquelle, au début du mois de septembre, en proportionnalité et subsidiarité, le préfet n'a pas eu d'autre choix que de prendre un arrêté rendant possible l'abattage des chèvres qui constitueraient un danger pour les personnes à travers un risque de sécurité routière sur les 5 communes considérées et pour un temps très limité, puisqu'il se limitait au 30 septembre, fin des vendanges. Dans le courant du mois de septembre, qui était le courant d'exécution de cet arrêté, qui aurait nécessité d'ailleurs au passage l'intervention des gendarmes avant, parce qu'il est hors de question de tirer à travers un axe routier sans le neutraliser, les louvetiers, l'OFV, on repartait quand même sur un champ d'intervention.
D'autres problèmes, finalement.
Exactement. Mais ce que nous avons constaté de manière très pragmatique, c'est que la prise de cet arrêté rendant possible l'abattage a fait que la dame qui s'occupe de ses chèvres a récupéré son troupeau et que depuis, à la faveur de 2 campagnes de vérification par drone, on n'a plus objectivé de divagation. Raison pour laquelle le 24 septembre, avant même le 30, nous avons décidé de retirer cet arrêté, qui n'était que la conséquence de la déshérence et de l'inaction de cette dame. Nous n'avions pas vocation, ni le préfet ni moi,
et
on se lève pas le matin en se disant « Youpi, on va pouvoir tirer sur des chèvres ». Vous voyez, donc on intervient parce qu'il y a 5 communes qui sont impactées, parce qu'il y a des vignerons, et parce que moi, moralement, je n'endosserai pas la responsabilité d'expliquer à la famille d'un gamin qui se sera tué en moto en percutant une chèvre, de lui dire ça fait 2 ans que le problème est identifié, mais ça fait 2 ans qu'on tourne autour du pot.
Et alors là, vous avez parce que je crois qu'il y avait de l'ordre de 150 ou 200 chèvres.
C'était même un peu plus.
Vous avez eu besoin de drones, par exemple, pour arriver à juger vraiment.
La DDTM, et oui, parce que avant de porter atteinte à moi, ça ne m'aurait pas fait plaisir d'avoir à tuer des chèvres, hein, mais avant de faire ça, il faut être sûr de ce qu'on fait et donc d'objectiver, si vous voulez, la situation matériellement. Et ça, dans l'endroit, il suffit, les Narbonnais le savent bien, à l'endroit où ça se passe, là on est dans les Corbières, hein, entre Portel, Saint-André-de-Roquelon, enfin ce secteur, tout le monde le connaît, personne ne sait y aller comme ça, la fleur au fusil, si c'est l'expression est un peu trivial, mais le drone nous permettait de voir du dessus où se situait le problème. Avant l'arrêté, il existait. Après l'arrêté, il n'existait plus. Nous n'avons plus vocation à maintenir cet arrêté.
Oui, voilà, c'était un outil parfaitement. Alors, parmi les polémiques qu'on entend très très souvent, notamment en été avec les maires, ce sont ce qu'on appelle les gens du voyage, qui s'installent en théorie sur des aires affectées, prévues pour ça. C'est pas toujours le cas. Ils rentrent dans des stades, ils brisent des clôtures. Enfin, bref, je ne vous apprends rien, monsieur le sous-préfet. Mais quel peut être votre rôle là-dedans?
Vous avez tout dit dans le en théorie. C'est-à-dire que normalement, il y a un schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui est constitué d'aires d'accueil permanentes. Il y en a autour de Narbonne. Et puis des aires d'accueil de grands passages, qui correspondent justement à ces mouvements d'été auxquels vous faites allusion. Il se trouve que sur le territoire du Narbonnais, il y avait une aire qui n'était plus conforme, qui était à La Palme, et cette non-conformité a entraîné une caducité de l'usage et de l'utilisation de cette aire. Moyennant quoi, ce schéma départemental, qui est important, vous allez voir pourquoi, il n'était plus respecté, et donc vous avez des gens du voyage qui continuaient à venir, et qui se sont installés de manière illégale parfois, mais en tout cas en dépit finalement de la capacité normale que doit offrir la collectivité à ces mouvements d'été. Bon, avec le président du Grand Narbonne, avec le maire de Narbonne, nous nous sommes mis d'accord sur la construction d'une nouvelle aire d'accueil de grand passage, qui a nécessité, au terme de tractations un peu parfois complexes, hein, et je le comprends, de trouver un terrain. C'est maintenant chose faite au sortir de Narbonne, hein, sur l'ancienne route 113 en allant vers Montredon. Les travaux vont commencer parce qu'ils participent aussi de procédures administratives d'autorisation, c'est normal.
Bien sûr, et ça prend du temps.
Et ça prend du temps, mais si vous voulez, une fois que ce schéma sera plein et entier, il y aura ce qu'on appelle l'opposabilité aux gens qui viennent s'installer d'une aire, c'est-à-dire en leur disant « vous devez vous installer sur cette aire, elle est faite pour vous ». S'ils ne respectent pas cette aire, à ce moment-là, nous changeons juridiquement de cadre et nous sommes dans une installation illégale à laquelle on peut mettre fin de manière urgente. Mais sans cette aire, ça n'est pas juridiquement possible.
Oui, voilà, c'est là où les gens ne comprennent pas trop le pourquoi du comment. Et merci de ces précisions, monsieur le sous-préfet. On marque une seconde pause, on se retrouve pour une troisième partie. On évoquera peut-être un peu plus précisément votre parcours personnel.
Et la deuxième jambe du sous-préfet, qui est l'accompagnement territorial.
Territorial, merci.